Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Le saviez-vous, aujourd'hui commence la semaine de grève mondiale pour le climat, une invitation à la mobilisation lancée par plus de 30 organisations internationales. Un mouvement qui a un leader en la personne de Greta Thunberg, jeune militante suédoise de 16 ans, tout juste arrivée à New York à l'occasion du sommet à l'ONU sur le climat. Une jeune femme qui fait des émules un peu partout dans le monde, invitant jeunes et moins jeunes à rejoindre un mouvement pacifique mais radical de résistance civile contre la catastrophe écologique en cours. Alors, grève ou pas grève ? Grève pour le climat, à quoi ça sert ? C'est donc avec un point d'interrogation. C'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour nous en parler autour du plateau. Allez, honneur aux dames. Régine Lange, vous êtes membre et coordinatrice, l'une des coordinatrices du collectif Citoyen pour le climat Toulouse. Bonjour. Zéphir Izard, vous êtes étudiant à Sciences Po à Toulouse et membre d'une autre association qui s'appelle Youth for Climate. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous nos auditeurs.
Et Jacques Millot, vous êtes membre du CCF des Terres Solidaires pour le département de la Haute-Garonne. Bonjour.
Bonjour à tous.
Approchez-vous bien du micro. Voilà, donc on va parler de la grève pour le climat. Alors vous, c'est votre, on va dire, c'est votre bain, c'est votre jus. Vous vous mobilisez depuis quelques temps pour cette proposition de grève qui commence aujourd'hui, mais beaucoup ne sont pas au courant. Allez, on va quand même commencer par ça. Régine Lange, vous n'êtes pas toute seule à vous mobiliser aujourd'hui et pendant quelques jours, mais partout dans le monde, et d'ailleurs on peut trouver des cartes, on y reviendra, oui. Il y a des mobilisations et des appels à la grève. Oui. Expliquez-nous ce grand mouvement.
Alors c'est vrai que les citoyens pour le climat, pour citer qu'eux-mêmes, ont commencé à se mobiliser il y a un an, mais il faut quand même rendre hommage à toutes les ONG et toutes les associations qui depuis de longues années œuvrent sur le terrain. En France, après, c'est vrai qu'il y a eu un électrochoc au moment de la démission de Nicolas Hulot qui a engendré ce mouvement un peu spontané, cette convergence et regroupement de tous les collectifs dans ces marches pour le climat.
Alors, il y a une trentaine d'organisations internationales. Je ne peux pas toutes les citer. Hein. Il y a, voilà, entre autres, Greenpeace, parmi les grands noms. Il y a Caritas. Nous, en tout cas, ça nous intéresse. C'est le secours catholique pour le monde. Avant de détailler un peu cette mobilisation, j'aimerais qu'on reparle un petit peu du réchauffement climatique. On va quand même juste dire deux, trois mots. Cet appel à la grève, il concerne tout le monde, on va dire collégiens, lycéens, adultes. C'est-à-dire on peut quitter les bancs d'école ou les bancs de la fac ou son poste de travail, du moins on y est incité.
Alors à l'image de Greta Thunberg qui a circulé un peu partout et qu'on voit bien maintenant tous les vendredis siéger devant son parlement avec sa pancarte « Grève scolaire pour le climat », elle a fait des émules, surtout en France, et il y a beaucoup de lycéens, d'étudiants, mais bon, je la laisserai s'exprimer là-dessus, qui ont appelé à ces mouvements de grève. Et la nouveauté, c'est que les adultes qui, au travers des marches, soutiennent ces mouvements, hein, c'est notre cas, on essaye d'être vraiment derrière eux pour faire masse, pour montrer qu'effectivement on est aussi derrière les jeunes, hein, sur ce mouvement qui les concerne, peut-être même eux d'abord. Et là, la nouveauté, c'est que l'on a demandé aussi aux syndicats de faire un appel à la grève, donc là des salariés, pour permettre aux personnes qui souhaiteraient participer aux mobilisations de pouvoir le faire, donc dans un cadre qui leur est permis.
Alors, j'ai noté entre autres un élément d'actualité, c'est le moteur de recherche Ecosia, certains connaissent peut-être, on fait des recherches sur Internet, au lieu d'aller sur d'autres moteurs de recherche que je ne citerai pas, à chaque fois il y a des arbres qui sont plantés, et Ecosia, ai-je vu, propose à ses salariés de se joindre à cette grève, disant que ça n'en sera pas retiré de leur salaire, et même que si d'aventure ils étaient emprisonnés, les jours de prison seraient considérés comme des jours de travail, vous voyez. On va s'écouter un petit teasing fait par le CCF des Terres Solidaires pour se remettre ensemble quelques chiffres en tête à propos de ce réchauffement climatique, et on en ajoutera d'autres du GIEC.
Le dérèglement climatique est à l'origine des trois quarts des catastrophes naturelles dans le monde, et selon l'ONU, 250 millions de personnes seront réfugiées climatiques en 2050. Si nous maintenons nos émissions actuelles de gaz à effet de serre, 600 millions de personnes supplémentaires souffriront de la faim d'ici 2080. Paradoxe accablant, ce sont ceux qui contribuent le moins au réchauffement climatique qui en souffrent le plus. Et pourtant, partout dans le monde, des femmes et des hommes inventent des solutions. Avec eux, relevons le défi contre la faim. c'est CFD Terre Solidaire, tous humains contre la faim.
Alors ça, c'est une des vidéos qu'on peut trouver, entre autres, sur YouTube, pour ne pas leur faire de la pub à propos de cette crise climatique. Alors on voit, on entend, vous êtes anglais, quand même, sur la question de la faim. Il faut rappeler donc le CCFD Terre Solidaire, c'est le Comité catholique contre la faim et pour le développement. Comment vous commenteriez cette courte vidéo? Et puis après, on essaiera d'élargir et de rappeler quelques fondamentaux sur le réchauffement climatique. Jacques Millot.
Oui, effectivement, dans ce petit flash-là, il faut se référer à l'année 2015, l'année de la COP21 Paris, en particulier où le CCFD avait préparé en amont de cette conférence internationale sur le climat un petit diaporama. Et dans ce diaporama, j'ai extrait un certain nombre de diapos qui rappelaient que l'enjeu de cette réunion internationale était de maintenir le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés. Alors pour donner quelques...
Aujourd'hui, voilà, on y reviendra, le GIEC dit que c'est...
On n'y est pas et on est de très loin, et même des rapports il y a quelques jours là, sur les médias français disaient qu'un groupe d'experts français avait fait des simulations et des scénarios. Il y en a plusieurs, mais un des scénarios les plus catastrophiques pariait sur un réchauffement de 7 degrés d'ici la fin du siècle, mais peut-être même bien avant.
Alors en tout cas, si on doit redonner les chiffres là, parce que le teasing est passé vite, 3/4 des catastrophes climatiques aujourd'hui dans le monde seraient le fruit donc de ce réchauffement climatique. Horizon 2050, 260 millions de déplacés climatiques, 600 000 personnes en plus qui souffriraient de la faim à l'horizon 2080, c'est ça?
Oh, je crois que les chiffres sont beaucoup plus alarmants que cela.
C'est ceux qui étaient cités dans votre teasing. Hein,
oui,
donc,
alors, il y a aujourd'hui... On ne va pas se battre sur les chiffres, mais en tout cas...
On ne va pas se battre, mais il faut essayer d'être précis. Parce
j'avais noté 800 millions de personnes dans le monde souffraient de la faim en 2014. Ça, c'est les chiffres de la FAO, hein, donc ce n'est pas le CCFD qui les invente. Et avec les impacts du changement climatique et du réchauffement, la FAO prévoit une augmentation de 20% d'ici 2080. Bon, c'est quelques repères. Moi, j'ajouterais que dans ce diaporama, pour combattre et arriver à limiter ce réchauffement à 2 degrés, puisque c'est quand même encore aujourd'hui à l'échelon international le chiffre retenu, il faudrait laisser dans le sous-sol le charbon et le pétrole et les gaz, laisser 80% de ces énergies fossiles dans le sol. Et encore une fois, c'est dans le rapport du GIEC. Un autre chiffre pour situer un peu les choses, de 92 à 2014, les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 60%. Pour la France, par exemple, dès que la croissance est repartie en 2017...
De 92 à 2014, vous dites, hein?
Oui, tout à fait.
60%.
60%. Et pour donner un chiffre encore plus récent sur les émissions françaises, dès que la croissance est repartie en 2017 à la fin du mandat de Hollande, la croissance était repartie aux alentours de 2%. Les émissions de gaz à effet de serre avaient tout de suite rebondi, ce qui faisait que même par rapport aux objectifs que la France s'était assignés à partir de la conférence de Paris, on était déjà largement au-delà.
Alors, on va donner la parole un peu à Zéphir Izard. Donc, je rappelle, vous êtes étudiant à Sciences Po, vous êtes membre donc de Youth for Climate. Qu'est-ce que vous ajouteriez? Donc, il y a ces fameux 1,5 ou 2 degrés à horizon 2030-2050. Là, je pense que l'opinion publique commence à avoir en tête ce chiffre. Il faut rappeler que derrière, c'est l'augmentation donc du niveau de la mer, c'est la perte des récifs coralliens, la baisse du rendement des cultures, etc., qui sont en jeu. Qu'est-ce que vous ajouteriez, vous? Quels sont les chiffres ou les scénarios que vous avez en tête quand vous réunissez à Youth for Climate?
Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'effectivement, comme vous l'avez précisé, il y a un rapport très alarmant de scientifiques français qui proposent un scénario avec plus 7 degrés, et ce scénario-là, à l'horizon 2100, voire avant, qui est le plus catastrophique prévu, mais on ne prévoit jamais le pire, vraiment. Une fois qu'on aurait atteint ces plus 7 degrés, le réchauffement climatique serait irréversible et il aurait des conséquences énormes, donc comme on l'a dit, sur la production mondiale de nourriture, sur la montée des eaux et donc le déplacement de nombreuses populations. Ce chiffre de plus 7%, même s'il est le plus alarmant, il faut se dire que tenir les plus 2 degrés comme le voudrait l'accord de Paris, ce qui est déjà loin d'être gagné, il fait déjà souffrir beaucoup de gens de déplacements, de faim, de désertification des terres. Et donc même ces plus 2 degrés sont déjà dangereux et je pense qu'il faut le garder en tête.
J'aimerais que vous nous preniez une illustration, Jacques Millot, puisque le CCFD Terre Solidaire travaille beaucoup avec des associations dans les pays dits en voie de développement. Est-ce que vous pouvez tirer de vos rencontres ou de vos voyages un exemple qui illustre, on va dire, l'inégalité nord-sud. Pour faire court, c'est ce qu'on entend en tout cas souvent, le nord pollue ou émet beaucoup plus de CO2, ou moins, et le sud derrière en pâtit. Trouvez-nous un exemple.
Oui, effectivement, il y a 2 ans de cela, on avait reçu dans le département de la Haute-Garonne un partenaire péruvien de l'association Fovida. Et ce partenaire péruvien était un ingénieur agronome qui travaillait avec des communautés paysannes dans la cordillère des Andes. Donc dans une région évidemment qui n'a rien à voir avec l'agriculture et encore moins le climat français. Et je me souviens très bien de son diaporama quand il présentait ses photos avec, dans les lycées où je l'accompagnais de Toulouse. Il montrait déjà les effets très visibles et très catastrophiques du réchauffement climatique dans la cordillère des Andes, avec en particulier la fonte des glaciers qui modifiait complètement le régime des eaux. Et l'alimentation, alors pour ceux qui ont en tête la carte du Pérou et de l'Amazonie, la cordillère des Andes alimente par la fonte des glaciers, en particulier les grands affluents de l'Amazone. Et donc dans les régions où les vallées, qui sont assez hautes, où les communautés paysannes travaillaient avec lui, il mesurait déjà les conséquences dramatiques pour ces communautés paysannes de la modification de l'alimentation en eau de leur culture. Et en gros, c'est ce qu'on peut dire, le point sur lequel il insistait devant les élèves, c'était de dire que en fait, ces paysans-là qui n'étaient déjà pas dans des conditions extrêmement favorables, même s'ils avaient pendant des siècles cultivé de la quinoa et des choses comme ça, et des pommes de terre à des altitudes où on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe, eh ben ces conséquences étaient dramatiques pour la survie et en particulier la souveraineté alimentaire et la nourriture de ces populations paysannes. Alors, voilà un bel exemple.
Des exemples, on pourrait en trouver bien d'autres. Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais qu'on s'arrête un petit peu sur la figure donc, de cette Greta. Alors, comment vous prononcez les uns les autres ? Sunberg, on dit ?
Sunberg.
Sunberg,
après,
allez.
On n'est pas certain.
On reste l'affaire à l'anglaise.
Voilà.
Mercredi dernier, donc, elle rencontrait Barack Obama. Elle est arrivée, donc, elle a 16 ans, je rappelle, elle est suédoise. Elle est porteuse du syndrome d'autisme Asperger. Voilà, qui sont des gens qui ont une autre manière de, on va dire, d'aborder le monde ou de réfléchir et qui sont souvent d'une grande intelligence. Je le dis parce que certains en profitent pour se moquer d'elle. Elle est arrivée à New York après avoir traversé l'Atlantique, non pas à la nage mais en bateau. Elle est arrivée donc parce qu'il y a un prochain sommet à l'ONU. Parlez-nous un peu de ce sommet et puis de cette figure les uns les autres. On commence avec vous, Régine Lange.
Oui, alors c'est aussi l'occasion donc de cette mobilisation, hein, c'est de montrer que tout le monde est très attentif à ce qui va se passer donc le 23, donc dans 3 jours, cette Assemblée générale de l'ONU qui a pour thème justement le climat. Donc il est attendu de cette Assemblée générale qu'il y ait des prises de position importantes pour l'action et que Greta Thunberg, qui est une figure médiatique, alors c'est vrai qu'elle est très controversée, mais en même temps, ça illustre aussi le propos, ça illustre la préoccupation des jeunes. Elle symbolise un peu...
Elle a eu un accueil triomphal, en tout cas à New York.
Voilà. Donc, je crois que voilà, il faut peut-être pas aller chercher forcément plus loin. Elle incarne en tout cas une mobilisation de la jeunesse, on le voit comme ça. Après, il y aura toujours des gens pour dire qu'elle est influencée, qu'elle est manipulée ou autre, ou conseillée, à la limite, peu importe. En tout cas, elle incarne et ça permet de donner effectivement une image de cette mobilisation. Donc, elle a voulu être exemplaire en se déplaçant en bateau et elle est allée interpeller donc, les responsables au niveau mondial. Et elle fait donc cette tournée aux États-Unis.
Alors juste, ce rassemblement du 23, parce que moi j'avoue que je ne l'avais pas vu passer,
C'est l'Assemblée générale de l'ONU.
D'accord, hein, on imagine qu'il y a souvent des réunions comme ça, là c'est quoi ? C'est une réunion exceptionnelle ?
C'est une réunion, voilà, exceptionnelle et qui est dédiée, c'est le sommet pour le climat. Et donc c'est d'autant plus important, qu'il faut le dire quand même, que les États-Unis sont sortis de l'accord de Paris. À l'arrivée de Donald Trump.
Elle a eu d'ailleurs un petit mot à l'adresse de Donald Trump. Elle a dit qu'elle n'a pas dit comme ça, mais que les bras lui ont tombé. Si les scientifiques n'arrivaient pas à écouter les scientifiques, elle ne voyait pas comment ils pourraient l'écouter, elle.
Voilà, c'est ce qu'elle dit. Elle enjoint à ce qu'on écoute les scientifiques, justement. Voilà.
Sur cette figure, Zéphir Izard, vous qui êtes le plus jeune sur ce plateau, pour vous, c'est vraiment, on va dire, une égérie de cette lutte de la jeunesse contre le réchauffement climatique. Quel est un peu votre regard sur cette jeune femme ?
Mais nous, ce qu'on tient à préciser, c'est qu'elle dirige absolument aucun mouvement particulier. Elle n'est pas à la tête d'un parti, elle n'est pas à la tête d'une organisation. elle a peut-être lancé le mouvement au sens où son influence a fait que des créations de groupes spontanés ont pu avoir lieu.
C'est elle la première, en tout cas, qui a lancé ces grèves.
Elle a lancé le mouvement des grèves, mais ce qui est important, c'est qu'elle ne dirige pas. Et ce qui est étonnant pour la plupart des personnes qui l'interviewent, qui lui demandent à quel moment, comment elle peut influencer directement sur les masses de jeunes qui se retrouvent dans la rue pour manifester, elle dit qu'elle ne l'est pas vraiment et qu'elle soutient de par sa figure médiatique très importante, mais qu'elle appelle
elle
juste...
Elle a quand même 1,5 million de followers sur Twitter.
Ça, c'est la force des influenceurs d'aujourd'hui. Mais ce qui est clair, c'est que...
En tout cas, vous reconnaissez dans cette figure.
Pour vous, c'est
une belle figure.
Elle nous permet d'avoir un exemple, pas un exemple à suivre, mais un exemple de choses qu'on peut faire mieux. Et nous, ce qu'on prône, c'est toujours faire mieux, jamais faire parfaitement, ce qui nous semble impossible. Et si tout le monde faisait un peu mieux, on n'aurait pas besoin de faire parfaitement.
Allez, on va faire une première pause et puis on va vous retrouver. En tout cas, pour ceux qui nous quitteraient maintenant, cet appel à la mobilisation, donc à la grève lancée à tous, jeunes et plus âgés, enfin que vous lancez à tous. C'est donc aujourd'hui, en tout cas à Toulouse. Rendez-vous à 14h30, place Arnaud-Bernard, pour les plus jeunes. Et puis il y a un autre rendez-vous pour ceux qui n'auraient pas pu, enfin entre autres, qui n'auraient pas pu prendre ce mouvement à 14h, à 17h au Palais de Justice à Toulouse. Pour ceux qui sont dans la région et qui ne sont pas à Toulouse, et ils sont quand même nombreux parmi les auditeurs, il y a un site internet où vous pouvez trouver une carte et vous zoomez sur la France, www.globalclimatestrike.com.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Grève pour le climat, à quoi ça sert? Point d'interrogation, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour nous en parler autour du plateau, Régine Lange, qui est membre et qui fait partie des coordinatrices du collectif Citoyens pour le climat à Toulouse, Zéphir Izard, étudiant à Sciences Po à Toulouse et membre de l'association Youth for Climate, et Jacques Millot, membre du CCFD Terre Solidaire, grande ONG chrétienne pour la Haute-Garonne. Alors ce mouvement donc d'appel à la grève pour le climat, c'est une semaine entière à l'échelle du monde, donc du 20 au 27 pour ceux qui nous rejoindraient, je le rappelle, avec, on l'a dit avant la pause, mais ça fait toujours du bien de le rappeler, comme ça on se met son nom en tête, avec comme égérie Greta Thunberg, donc, qui est arrivée à New York pour un prochain sommet le 23 septembre prochain, lundi. Comment est-ce né? J'ai cru comprendre que tout était un peu parti, en dehors de cette figure de Greta Thunberg, de la démission de Nicolas Hulot en août dernier. Alors expliquez-nous l'un ou l'autre, et là on va commencer, honneur aux dames, Régine Lange.
Oui.
Ça a été un coup de tonnerre, et derrière, qu'est-ce qui s'est déclenché?
Alors ça a été un coup de tonnerre en France, hein, relativisons peut-être un peu les choses.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Et ça coïncidait avec des appels d'ONG au niveau mondial qui poussaient donc à cette mobilisation. Et donc ça ça a pris et ça a bien amorcé en France, parce qu'effectivement il y a eu cet appel de Nicolas Hulot qui disait « mais moi je n'ai pas de trou parce que j'ai quelqu'un dans la rue qui défend la biodiversité, qui défend la nature, le vivant ». Donc je crois que ça a révélé surtout des simples, peut-être la volonté de se mobiliser de simples citoyens qui n'étaient pas à ce moment-là militants engagés dans des structures et qui se sont dit que c'était aussi l'occasion peut-être d'exprimer leur inquiétude sur les choses qui se passaient et qu'ils commençaient.
Mais alors comment ça s'est organisé? Parce que donc Nicolas Hulot a annoncé ça donc le 28 août 2018. Et après, qu'est-ce qui a commencé en premier? C'est quoi? C'est les grèves pour le climat? C'est la même chose que les Friday for Future? C'est la même chose tout
alors,
ça?
Alors Friday for Future, c'est effectivement initialement le mouvement aussi de
donc
Greta
Friday
Thunberg.
Pour vendredi, pour
le
ceux
vendredi,
qui parlent anglais.
C'est tous les vendredis, Greta Thunberg donc, était assise
d'accord.
devant son Parlement pour faire cette grève-là. Ensuite, ça a été renforcé par donc, des appels sur les réseaux sociaux, en tout cas au niveau français, où un certain nombre de personnes, donc d'influenceurs, ou qui ne l'étaient pas à ce moment-là, ont lancé cet appel à manifester et qui a pris une ampleur un petit peu inattendue. Et depuis un an, de façon très régulière, à peu près une fois par mois, ben, on se mobilise.
Alors la première, c'était le 8 septembre, c'est ça, 2018. Donc c'est un mélange quoi de grève, de manifestation. Comment vous compléteriez un peu l'historique de cette mobilisation, Zéphir Izard?
Bien, c'est une mobilisation d'abord qui a été spontanée avec des gens qui se sont sentis impliqués et qui se sont dit, notamment avec la démission de Nicolas Hulot, qui a dit qu'il était dans un gouvernement qui ne faisait rien pour l'écologie et qui a posé son nom en tant que ministre de l'écologie était quelque chose qu'il ne pouvait plus supporter. Et donc cette démission-là, elle a engendré une mobilisation des gens qui pensaient...
Alors ça, on a compris, mais du coup, qu'est-ce qui s'est passé le 8 septembre? C'était une marche
pour le
climat, c'est ça?
Alors le 8 septembre, il y a eu une marche pour le climat, il y a eu une grève, c'est-à-dire que les étudiants ont déserté les salles de classe, se sont rendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement, et aussi, c'était le début des grèves du vendredi, c'est-à-dire qu'avec un appel à quitter les cours tous les vendredis.
Alors tout ça, donc, on l'a compris, c'est né, donc, on va dire, j'allais dire au fil de l'eau, au fil des événements et de l'actualité, de la mobilisation citoyenne. En fait, tout fait un aujourd'hui, c'est ça? Marche pour le climat, grève... aujourd'hui,
mais aussi
c'est...
les revendications sociales qui ont émergé dans le pays, c'est-à-dire qu'on a tous pris conscience que les revendications écologiques n'étaient pas compatibles avec le système actuel et que s'il y avait des revendications sociales, elles devaient converger. Et c'est ce qui va se passer tout à l'heure, 14h, Arnaud Bernard.
Alors, dites-nous quelques mots à propos de Toulouse, parce qu'on imagine que ça représente un peu aussi la région. Qui est-ce qui est à l'intérieur de ce collectif citoyen pour le climat? Allez, on va honneur aux jeunes pour une fois. Youth for Climate, si vous deviez le présenter un petit peu, vous en faites, enfin vous êtes associé donc à ce collectif pour l'appel de ce jour. Comment vous présenteriez ce mouvement?
Ben, nous, on est un mouvement, c'est-à-dire qu'on n'est pas un parti, on n'a pas d'adhésion, on n'a pas de liste de membres. On a juste des gens qui sont motivés et qui sont actifs sur nos groupes de discussion, c'est-à-dire qu'on est sur les réseaux sociaux. Bon, évidemment, tous les Facebook, les Instagram et les Snapchat, tous les jeunes y sont. On est plus ou moins jeunes, on est tous dessus, on communique un maximum là-dessus. On a des serveurs de discussion vocaux et on est composé à très grande majorité de lycéens, même si ce n'est pas mon cas. J'ai été engagé quand j'étais lycéen et je ne suis plus, mais je suis toujours dans le mouvement. Il y a des membres...
C'est né en France et en Belgique, c'est ça, hein ?
Alors, Youth for Climate, c'est le nom franco-belge du mouvement international Fridays for Future.
D'accord, donc du fameux de Greta Thunberg.
Okay. Exactement.
Ok, comme ça, on a l'historique.
Et donc, nous, on est un mouvement composé majoritairement de lycéens. Il y a des collégiens aussi. Il y a des étudiants de l'enseignement supérieur. À Toulouse, on a beaucoup d'étudiants en ingénierie. On a aussi des étudiants en école de commerce. Et nous, on est représentés assez massivement à Sciences Po parce qu'on est quand même assez désignés pour ce genre de choses.
J'ai cru comprendre que parfois, vous aviez d'autres types d'actions. Alors, je ne sais pas si c'est le moment d'en parler, qu'il y a eu un McDonald's qui a été bloqué à Bordeaux, qu'il y a aussi des initiatives Light Off, c'est-à-dire extinction d'enseignes lumineuses, ou alors Clean Walk, c'est-à-dire on marche en ramassant systématiquement tous les déchets.
Alors oui, c'est-à-dire on a les actions manifestations classiques, les marches pour le climat, mais on a aussi décidé de multiplier nos moyens d'action, c'est-à-dire notamment à travers les Clean Walk, c'est-à-dire c'est des marches de nettoyage. On se donne un point de rendez-vous, on prend des sacs poubelles, on traverse une ville, on ramasse tout ce qu'on y trouve et qui ne devrait pas être par terre, et on peut comme ça faire économiser des centaines de litres d'eau qui auraient été pollués à cause des mégots. Un mégot jeté par terre, c'est 500 litres d'eau polluée, donc ramasser 3 mégots, 1500 litres, ça va très très vite. C'est impressionnant le nombre de choses qu'on peut trouver par terre alors qu'elles ne devraient pas y être. Ça, c'est les clean walk. On a beaucoup d'autres moyens d'action. On a tout ce qui est désobéissance civile, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas écouté.
Vous pouvez donner des exemples, ça donne quoi, désobéissance civile ?
Alors, la désobéissance civile, nous, on a un consensus d'action, c'est-à-dire on a décidé d'agir de manière pacifique. Notre consensus d'action, il est pacifique, il est non-violent. Et quand il y a des décisions qui sont prises de mener une action de désobéissance civile, ça peut se matérialiser, comme on l'a dit à Bordeaux, par le blocage d'un McDonald's, c'est-à-dire McDonald's, une enseigne polluante. Aucune réponse politique à cette pollution, aucune réponse de l'entreprise à cette pollution. On n'est pas écouté, on le montre, et donc on va directement influencer le McDonald's sur le lieu. Lors des assises, donc c'était pendant les assises nationales, c'est-à-dire le regroupement de tous les membres de Youth for Climate à Bordeaux cet été, et donc il y a eu un blocage, c'est-à-dire on se met devant. Il ne se passe plus rien, personne n'entre, on explique aux gens qui veulent rentrer pourquoi.
C'est ce que vous appelez une désobéissance civile. Donc.
C'est une des formes d'action de désobéissance civile, mais il y en a plusieurs. Notamment, il y a eu par le collectif ANV COP21, Action non violente pour la COP21, les décrochages des portraits d'Emmanuel Macron pour symboliser l'inaction écologique en laissant vide l'espace qui devrait être celui du politique.
Donc décrochage, quoi, décrochage dans les mairies, c'est ça ?
Décrochage,
dans les lieux officiels.
Décrochage non violent, il y a un portrait du président par mairie.
Voilà.
De manière non violente, il est possible de venir le récupérer pour symboliser très clairement le vide laissé par sa politique.
Alors j'ai noté on reste un peu sur les jeunes, mais on reviendra. De toute façon, ça se fait écho tout ça. Quelques idées directrices de Greta Thunberg, donc vous reprenez certainement un petit peu à votre compte. Il y en a une qui est très frappante. La première donc est que la crise provoquée par le réchauffement climatique est si grave que l'humanité fait face à une crise existentielle. Est-ce que à votre génération, c'est comme ça qu'on le vit ? C'est-à-dire que c'est l'impression que c'est une grande question philosophique qui est posée.
Mais c'est une question philosophique, mais qui nous semble pour nous très concrète. C'est-à-dire c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que plus 7 degrés, comme on les évoquait tout à l'heure, ça peut complètement être la fin de l'humanité.
Alors rappelle juste, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début de l'émission, plus 7 degrés, vous faisiez écho, ainsi que Jacques Milleau du CCLD Terre Solidaire, d'une étude de scientifiques français récente. Parce qu'on parle souvent de plus 1 ou 2 plutôt.
1 ou 2, ce sont les objectifs. Plus 7, c'est irréversible et très probablement la fin de toute vie humaine sur Terre après l'extinction d'espèces animales et végétales qui sont indispensables à l'homme. Donc pour nous, on voit ça comme ça. On voit comme une potentielle fin de l'humanité. Et nous, même, on ne veut pas ça et on va tout faire pour l'empêcher. Il y a des gens parmi la jeunesse aussi qui ne se sentent pas concernés. Nous, on va tenter de mobiliser tout le monde par des petites actions au début. Le refus d'utiliser des pailles en plastique, le refus d'utiliser des gobelets, la mise en avant de la gourde, par exemple, tout simplement pour économiser un maximum déjà de plastique. Et ensuite, Avec tout ça, ce sont des petits gestes qui peuvent permettre à mobiliser un plus grand nombre.
Donc en tout cas, une crise existentielle. J'ai noté aussi une chose, la seconde est qu'elle tient, donc c'est toujours Greta Thunberg, la génération actuelle pour responsable, avec des déclarations telles que « tu voles notre avenir ». Vous reconnaissez aussi là-dedans ?
Mais on ne désigne pas la génération actuelle comme on ne représente pas la génération ancienne, comme on ne représente pas la génération actuelle. Il y a de tout partout, ça c'est clair, mais il est évident.
Même sur ce plateau, il y a de tout, vous voyez.
Ah oui, complètement.
C'est beau. Hein.
Je suis sûr que parmi nos auditeurs, on a tout un panel de sensibilités. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est la génération précédente à la nôtre qui a le plus...
Là-dessus, on peut pas vous dire que vous avez tort, oui.
Qui a le plus aggravé la situation. On ne lui en veut pas nominalement, mais on sait qu'il y a des membres de cette génération qui ne font rien pour le climat, peut-être par inconscience, peut-être par simple déni de volonté d'aider. Et donc, on en veut nominalement à ces personnes-là, et c'est eux qu'on va frapper s'ils frapper.
Vous n'en voulez pas nominalement, vous en voulez collectivement, on va dire.
On en veut collectivement, mais pas à l'ensemble de la génération. Il y a des gens qui sont responsables, et c'est très clair. Certaines grandes entreprises sont clairement responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et nous, on va porter un terme à leur image, ce qui peut se faire très facilement. On va porter un terme à leur modèle économique. Et c'est absolument ce qu'on veut faire. Et c'est ce qu'on va essayer de mener jusqu'au bout si on n'est pas écouté par les dirigeants politiques qui peuvent le faire eux.
Alors, on y reviendra parce qu'on entend derrière ce que vous dites. Et j'ai lu en effet des choses en ce sens que vous êtes décidé à peut-être à changer de mode d'action si d'aventure ces grèves ou ces marches ne changeaient rien. Si on revient sur ce collectif citoyen pour le climat, on va dire à l'échelle nationale, on imagine qu'à Toulouse c'est pareil. J'ai vu aussi quelques objectifs. Alors vous en êtes aussi signataire, hein, Jacques Millot, donc pour le CCFD Terre, enfin le CCFD Terre Solidaire fait partie de ce collectif au moins à Toulouse. Je les cite et puis je vous laisse piocher là-dedans. Mettre fin à l'extraction des combustibles fossiles dans le cadre d'une transition énergétique. Voilà, c'est quand même, on va dire, un objectif haut. Hein. Abolir les subventions pour la production d'énergie fossile, augmenter les investissements dans les énergies renouvelables. Je sais pas, vous, si vous les preniez à votre compte, on va commencer avec vous, Régine Lange, vous citeriez quoi ? On imagine qu'on ne marche pas, on ne se mobilise pas sans objectif clair.
Oui, mais alors c'est vrai qu'on est confronté quand même à une difficulté, là, tout ce que l'on se dit depuis tout à l'heure. C'est qu'on a l'impression qu'on met un peu les gens devant une culpabilité ou une certaine responsabilité. En tout cas, ce qui est certain et ce qui fait consensus, c'est qu'il y a eu des changements depuis le début de l'ère pré-industrielle. C'est un mode de société et c'est cette évolution industrielle basée sur les énergies fossiles qui ont causé ce que je préfère appelez-moi les dérèglements climatiques plutôt que le réchauffement climatique, puisqu'on parle de température moyenne et que, évidemment, les impacts, les effets sont différents d'un côté à l'autre du territoire. Donc, on aurait tendance, effectivement, à dire en premier lieu, l'urgence, c'est de sortir de cette logique économique, et on voit toute l'amplitude du sujet basé sur les énergies fossiles.
D'accord, mais si vous deviez être un peu plus précis, ça donne quoi ? Parce que changer de modèle économique, on voit à gros traits. Oui. À cette antenne, on en parle souvent, on fait écho aux propos du pape François. Oui. Mais voilà, si vous deviez être plus précis, je ne sais pas, demain vous êtes reçu à Toulouse par le maire ou par le conseil régional ou le conseil départemental.
Et on a présenté
des
revendications.
Il vous demande trois revendications, oui. Quelles seraient-elles ?
Alors, nous l'avons fait déjà, effectivement. Et nous avons présenté des revendications et une revendication était plus aucune décision et plus aucun projet ne peut être réalisé s'il a un impact négatif sur le climat. C'est-à-dire que le simple fait qu'il soit mis en œuvre ou qu'il soit réalisé va occasionner ce que l'on appelle des émissions de gaz à effet de serre ou des consommations énergétiques puisque c'est la cause première des dérèglements climatiques.
Donc toute politique publique est, on va dire,
assujettie à une évaluation. D'accord. Et donc conditionnée par ce qu'elle occasionne comme impact sur le climat. Et bien voilà, on a eu une fin de non-recevoir sur cette question, c'est désolant, parce que ça nous paraissait, quand on prétend s'engager pour le climat, est effectivement la base. Et quand je vous dis...
Quand vous dites on a fait ça, c'était au niveau de la région Occitanie, de Toulouse Métropole ?
Alors ça a été déjà au niveau de Toulouse Métropole, la ville et la métropole de Toulouse. On ne l'a pas fait tout seul, Citoyens pour le Climat. On a été 18 collectifs et associations à se mobiliser pour faire ensemble cette interpellation, qui nous paraissait être quand même une revendication fondamentale et relativement simple à l'échelle de politiques locaux. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas été du tout entendu sur cette question-là. Donc, d'où la différence entre, quelquefois, les incantations, les propositions, et puis la mise en œuvre concrète dans les actes, et on voit le chemin qu'il y a à parcourir.
Jacques Millot, qu'est-ce que vous ajouteriez, sans vouloir être exhaustif, si le CCFD devait rajouter son grain de sel, qu'est-ce qu'il ajouterait ?
Nous, la première chose que je dirais, c'est vis-à-vis de nos partenaires des pays du Sud, c'est que à la fois, je le disais tout à l'heure, ils sont victimes, les premiers et en très grand nombre depuis relativement beaucoup d'années de ce dérèglement climatique. Et en plus, pour eux, c'est la double peine, parce que c'est aussi des populations qui, depuis des décennies, ont le moins émis de gaz à effet de serre. Donc on ne peut pas admettre ça, enfin, c'est complètement inacceptable. On leur fait déjà payer l'exploitation éhontée de leurs ressources, et en plus, c'est les premières victimes.
Qu'est-ce que ça donne comme revendication ?
Donc pour ça, le constat, pour nous, les sociétés multinationales françaises, parce qu'on vit en France, mais ça serait fait pour toutes les autres, on devrait leur interdire aujourd'hui, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans nos textes, de développer des projets d'extraction minière, je pense au Pérou, je pense au Congo, et au Niger, enfin à plein d'autres pays d'Afrique, où justement cette surconsommation d'objets technologiques, vous voyez à quoi je peux faire allusion, mène à la famine, à la ruine, à la destruction de l'environnement de ces pays-là. Enfin, on a des exemples très concrets au Pérou de mines qui sont des multinationales qui trouvent des gisements de métaux rares, de cuivre, etc. Et puis, ça va faire marcher le business, le commerce, et il n'y a pas de problème.
On avait Bernard Hugeux à cette antenne, et hein, ça, nous, vous connaissez peut-être, qui est missionnaire Père Blanc en RDC, et qui sait de quoi il parle, puisque lui, il s'occupe des enfants qui travaillent dans ces mines.
Donc, voilà, par exemple.
Avant qu'on fasse une deuxième pause, pour ceux qui nous quitteraient maintenant, qu'est-ce que les rendez-vous précis ? Racontez-nous un peu plus dans le détail. Allez, honneur à la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce que le déroulé de la journée ? Le rendez-vous, donc, c'est 14h, départ à Place Arnaud Bernard. Je vous laisse commenter. Voilà que j'oublie votre nom, Zéphirizar.
Alors oui, ça va être une manifestation festive au départ de la place d'Arnaud Bernard à 14h. Tout le long de la marche qui va déambuler dans Toulouse sur un grand parcours, mais très accessible, on va avoir des petites animations, des animations festives, joyeuses, mais aussi des animations conscientes. Et pour ceux qui...
Animation consciente, c'est quoi juste ?
Animation consciente, on aura des représentations théâtrales, des représentations chorégraphiques de danse, et sur un thème, sur le thème écologique, et sur le thème surtout de la destruction des écosystèmes. Et pour ceux qui n'auraient pas la chance, la volonté ou la possibilité de nous rejoindre à 14h, on propose un deuxième rendez-vous, notamment si Citoyens pour le Climat propose un deuxième rendez-vous, et nous on poursuivra la marche tous ensemble à 17h au Palais de Justice.
Voilà, donc rendez-vous est donné, 14h, Place Arnaud Bernard à Toulouse, et puis on va dire rattrapage à 17h au Palais de Justice. Je rappelle, comme je l'ai fait avant la première pause, il y a un site internet qui répertorie toutes les initiatives à l'occasion de cette grève mondiale pour le climat, donc qui court du 20 au 27 septembre. C'est le site internet www.globalclimatestrike, je le prononce à l'américaine, mais c'est bien des i qu'il faut mettre, .com. Thank you. Grève pour le climat, à quoi ça sert? C'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin pour ceux qui nous rejoindraient. Autour du plateau, Régine Lange du collectif Citoyen pour le climat, Zéphir Izard pour Youth for Climate et puis Jacques Millot, membre du CCFD Terre Solidaire. Je me suis dit qu'on allait finir cette émission en vous demandant un petit peu comment vous avez eu le déclic quant à la cause écologique. Elle est cette fois honneur au plus ancien d'entre nous, parce qu'on se dit que lui, peut-être, a-t-il eu depuis longtemps ce déclic. Jacques Millot, comment ça vous est venu? Vous vous souvenez du moment où la bulle est montée au cerveau, comme on dit, et puis là, vous êtes dit, il faut absolument que je fasse quelque chose, que je me batte.
Tout à fait, oui, c'est le privilège de l'âge. Hein. Vu mon âge, effectivement, j'ai eu ce premier déclic, je m'en souviens très bien, c'était dans la fin des années 70. J'étais prof à l'époque dans l'enseignement agricole et on parlait déjà, de l'agriculture, l'agriculture biologique. Hein. Et moi, j'enseignais dans des classes où je me revois des élèves que j'avais à l'école en première à cette époque-là, qui se battaient déjà à l'époque. Hein. Alors évidemment, il y avait un groupe très majoritaire et un groupe très minoritaire d'élèves qui avaient leurs parents qui avaient déjà dans...
Qui se battaient pour un nouveau modèle agricole.
Oui, qui, les enfants, les fils d'agriculteurs bio, c'était pas à Toulouse à l'époque, c'était en Bourgogne, faisaient déjà valoir les principes de l'agriculture biologique à leurs collègues. Évidemment, ça donnait des discussions assez vives, pour ne pas dire plus.
Donc c'est quoi? C'est ces jeunes qui vous ont aidé?
Oui, d'une part, et l'autre part, c'est la lecture d'un livre qui m'a marqué, qui est, je crois que d'ailleurs cette personne vit toujours. C'est le livre de Suzanne George qui avait écrit dans les années, la fin des années 70, « Comment meurt l'autre moitié du monde ?» Elle évoquait déjà à l'échelle mondiale les problèmes de la faim dans le monde. Et je dirais, presque, oui, 50 ans après, on n'a pas beaucoup résolu le problème, puisqu'il y a toujours autant de personnes, dixit la FAO, qui souffrent des problèmes de la faim. Alors, je dis juste un mot sur le problème de la faim, parce que souvent, c'est...
Rapidement, pour donner la parole aux autres.
C'est pas la famine. Je dirais simplement en deux phrases que c'est des populations, souvent paysannes d'ailleurs, très souvent, très majoritairement paysannes, qui n'ont pas accès à une quantité de nourriture suffisante le jour, le mois, l'année, pour subvenir à leurs propres besoins d'humains essentiels. Et ça, je pense que c'est souvent pas très bien compris dans la population.
Alors qu'ils sont eux-mêmes agriculteurs.
Alors qu'ils sont très majoritairement, ce sont presque toujours des agriculteurs. Alors ce sont eux qui produisent la majorité de l'alimentation, j'allais dire, quotidienne des humains sur cette planète.
Et voilà, puis, ça c'est... Jacques Millot, vous vouliez rajouter quelque chose, oui?
Alors après, je donnerai, si j'ai l'occasion, de quelques idées fortes que défend encore aujourd'hui le
Alors,
CCFD.
Alors, juste comme on s'est dit que c'était la séquence témoignage, on va essayer de passer la parole aux autres. Allez, on fait un saut d'une génération à l'autre. Zéphir Izard, racontez-nous votre prise de conscience.
Mais moi, je suis né dans une famille où la politique a toujours été un sujet de débat, sujet de controverse, mais toujours un sujet au centre de la table. Mais moi, je ne parlerai pas d'un déclic, je parlerai plutôt d'une progression. D'une progression, d'une conscience petite quand j'étais enfant, qu'il y avait des problèmes et qu'on nous en parlait, mais que c'était pas toujours très clair. Et qu'au fur et à mesure, de mon lycée, au fur et à mesure de mon parcours scolaire, avec les connaissances qui s'accumulent, avec les recherches personnelles, avec la découverte des groupes de mouvements, les mouvements qui défendaient le climat, ce genre de choses.
Il n'y a pas une rencontre, un bouquin, un film
Mais la...
Même s'il n'y a pas eu un grand déclic, il y a quand même eu certainement des moments clés, non? Mais si on... vous deviez en choisir
oui,
un.
Oui, on pourrait dire que ma conversion au fait d'être végétarien, la production de viande consomme énormément d'eau, et je pense que j'ai décidé, il y a à peu près un an, de ne plus manger de viande pour économiser un maximum d'eau, même si ce n'est sûrement pas suffisant. Moi, c'était ma version pour faire mieux, et c'était, pour l'instant, c'est ma limite pour faire mieux. J'essaie d'en faire toujours mieux et on propose à tout le monde de faire toujours mieux pour essayer d'avoir un déclic.
Voilà, c'est un déclic concret. Régine Lange, vous, est-ce la démission de Nicolas Hulot qui vous a lancé ?
Non, c'était un petit peu avant, puisque c'était déjà dans mon métier et c'était aussi assez progressif. Mais comment passer de la prise de conscience à la volonté, ou en tout cas à l'exigence d'aller dans la rue pour militer aussi, ça c'est aussi d'abord d'avoir des enfants et de se dire que, en fait, ce que l'on commence à toucher du doigt, à vivre soi, ça ne sera pas grand-chose à côté peut-être des difficultés de vie que vont rencontrer les générations futures.
C'est des enfants qui ont un certain âge et qui, du coup, vous posent des questions
et,
aussi.
Et qui, surtout quand on les regarde, on sent cette responsabilité qu'on a vis-à-vis d'eux et qu'on touche du doigt les défis qu'ils vont avoir, eux, à affronter. Et qu'il faut vraiment aussi que l'on leur permette d'avoir des perspectives. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'émission, on dit des choses un petit peu effrayantes, on dit des choses un petit peu négatives. Je crois qu'il faut quand même mettre de l'espoir dans aussi ces démarches-là et dans ces mouvements. Hein. Ce n'est pas uniquement constater que ça ne va pas bien, mais que dire parce qu'il y a besoin de remettre en cause nos façons de fonctionner, nos modes de société, il y a peut-être une occasion formidable de mettre en place de nouvelles solidarités, de nouveaux fonctionnements. Donc moi, j'inciterais à lire des ouvrages qui m'ont un petit peu inspiré. C'est Pablo Servigne, et notamment au-delà du constat de ce qui se passe, d'aller chercher... comme il dit, l'autre loi de la jungle, où une autre fin du monde est possible, c'est-à-dire comment faire aujourd'hui de ce qui se passe d'un peu inquiétant, une perspective de société plus solidaire et qui finalement débouche sur quelque chose de positif, malgré tous les rapports et tous les constats alarmants qu'on peut faire.
Alors on va redonner les livres, donc Pablo Servigne.
Pablo Servigne.
Le titre de l'ouvrage, vous l'avez
une
pas
Une autre fin du monde est possible.
Voilà, si vous deviez rappeler Jacques Millot aussi, l'ouvrage dont vous nous avez parlé.
Suzanne Zorge, comment meurt l'autre moitié du monde.
Voilà.
Et c'est aujourd'hui, Pablo Servigne dit, moi j'ai lu aussi ce livre, il dit la même chose.
Hein. On pourrait citer aussi le documentaire Demain, on en avait parlé à cette antenne, hein, qui est un beau documentaire, qui lui justement a choisi l'angle de toutes les initiatives, on va dire, aux quatre coins du monde, qui dessinent un nouveau monde. Merci beaucoup d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. On rappelle 2-3 éléments. Donc Collectif Citoyen pour le Climat Toulouse ou Youth for Climate, vous trouvez ça sur Internet, Instagram, etc. Bref, à vous de vous débrouiller avec les moyens de communication moderne. En tout cas, le rendez-vous pour aujourd'hui pour Toulouse, c'est donc à 14h place Arnaud-Bernard avec une séance de rattrapage 17h au Palais de Justice. Et je le rappelle une dernière fois, si vous voulez retrouver d'autres mobilisations dans la région, parce que j'en ai noté, en vrac, il y a, je ne retrouve plus mes papiers, mais il y a, je crois, Castres, Muret et d'autres villes. Vous retrouverez tout ça donc sur www.globalclimatestrike.com, globalclimatestrike.com. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.